Merci beaucoup. Je tiens d'abord à remercier les organisateurs, donc Anne Mayer, Eric Huiscom et Vincent Negri, de m'avoir invité. Je vais essayer de ne pas faire trop long étant donné le retard qu'on a eu aujourd'hui. Et je pense que vous êtes tous un petit peu fatigués après cette riche journée. Donc le sujet de mon exposé, il concerne le thème général de ce colloque, c'est-à-dire le patrimoine anthropologique, en l'occurrence africain, mais un patrimoine anthropologique un petit peu particulier, puisque je parlerai surtout du patrimoine biologique et du patrimoine moléculaire. C'est un sujet qu'on n'a pas encore abordé aujourd'hui. Alors pourquoi est-ce que la biologie a sa place dans des discussions qui ont trait à la mémoire africaine? Car elle se transmet de génération en génération. Donc évidemment, il y a un patrimoine culturel qui va se transmettre au travers des objets, au travers des architectures, au travers des traditions ou des langues, et qui se modifie aussi avec le temps. Mais il y a aussi un patrimoine biologique, et je ne parle pas seulement des ossements qui peuvent être ou non fossilisés avec le temps, mais je parle aussi des gènes. Et les gènes passent de génération en génération alors que les individus trépassent. Alors ces gènes, ils se modifient aussi avec le temps, au travers de petites mutations, de petites modifications. Et ces modifications se font à un rythme relativement régulier dans le temps, ce qui fait que des individus peuvent être comparés pour leurs gènes et vont accumuler de part et d'autre des mutations qui permettent de les comparer et de voir, d'estimer le degré de leur différence génétique. C'est une approche qui permet aussi d'estimer des différences génétiques entre populations, puisque ici on parle plutôt à l'échelle populationnelle, et raison pour laquelle on arrive ensuite à reconstituer une histoire des différenciations biologiques des populations. Donc dans cette approche, nous étudions l'humain pour la science. Et dans ce contexte, l'Afrique, elle occupe une place particulière, puisque d'après le matériel fossile qui a été découvert, on sait que les probables ancêtres du genre Homo vivaient sur le continent africain. Et puis, le genre Homo lui-même est probablement apparu dans ce continent. Et l'espèce humaine moderne, Homo sapiens, est probablement aussi apparue dans ce continent, en tout cas dans l'état actuel des recherches en paléontologie. Mais évidemment, l'Afrique ne tient pas dans l'histoire de l'humanité uniquement ce rôle d'histoire ancienne, de berceau de l'humanité. L'Afrique, c'est aussi un continent qui est extrêmement riche en population. C'est un continent qui a dépassé le milliard d'habitants en 2009, qui compte aujourd'hui environ 2000 langues, 2000 cultures différentes d'après, si on estime d'après par exemple les estimations de l'ethnologue qui fournit un nombre de langues différentes parlées sur ce continent. C'est les petits points rouges que vous voyez sur cette diapositive. Et ces langues, elles peuvent être aussi classées en différents phyla linguistiques. On compte aujourd'hui, il y a un consensus pour dire qu'il y a 4 grands phylums linguistiques sur ce continent. Donc c'est un continent qui a été peuplé par une histoire extrêmement riche, extrêmement complexe, avec de multiples migrations, avec des expansions démographiques, des contractions démographiques. Et comme vous le savez, tout ceci a dépendu aussi des énormes changements climatiques qui sont intervenus au cours du temps et qui ont modifié passablement l'environnement, que ce soit au niveau du Sahara ou au niveau plus des autres régions. Donc c'est une histoire complexe et ici on va évidemment l'étudier, le biologiste va l'étudier sur le terrain, en grande partie sur le terrain. Les caractères biologiques que l'on étudie sur le terrain, bon, autrefois on étudiait plutôt les mensurations corporelles, les dimensions corporelles ou la pigmentation, ça faisait l'objet de l'anthropologie classique. Maintenant, il s'agit surtout d'étudier des gènes, certains d'entre eux qui interviennent d'ailleurs dans la détermination de ces caractères morphologiques ou pigmentaires que l'on découvre petit à petit. Mais on étudie aussi toutes sortes de gènes qui sont des gènes fonctionnels, qui ont trait à l'immunité, qui ont trait à différentes fonctions vitales de l'organisme. Et on étudie aussi des gènes qui ne sont pas fonctionnel, donc il ne s'agit même pas de gènes, il s'agit de régions de notre ADN qui simplement présentent une variabilité entre les individus et de ce fait qui ont un intérêt pour retracer l'histoire des individus, l'histoire des populations. Alors, quelles questions scientifiques est-ce qu'on se pose ? Les questions scientifiques peuvent être de nature très diverse. Il y a d'abord des questions de recherche fondamentale qui essayent, par exemple, de poser des questions par rapport à l'histoire, simplement, des populations, l'histoire de leur migration, l'histoire de leur différenciation biologique. Comment est-ce que ces populations se sont différenciées ? Vous avez un petit schéma ici qui retrace des migrations ici de lignages moléculaires que l'on essaie d'interpréter en termes de mouvements populationnels. Il y a aussi d'autres types de questions qui ont plus trait à la santé publique. Ce sont des questions relatives à la compréhension des maladies, des prédispositions ou des résistances à certaines maladies, dont certaines, comme vous le savez, font des dégâts considérables. Je n'en mentionne que deux ici, le sida et la malaria. Et les études génétiques, évidemment, permettent d'essayer de comprendre comment est-ce que ces maladies se propagent et de manière à pouvoir les prévenir. Donc le travail de l'anthropologue, biologiste sur le terrain, il consiste d'abord à entrer en contact avec... Enfin, faire un plan d'expérience, se poser des questions scientifiques, ensuite organiser une expédition, se rendre sur le terrain, prendre contact avec la population, et c'est là qu'il y a quelque chose de vraiment fondamental justement dans cette approche, c'est qu'on est au contact des populations autochtones et qu'il va falloir justement avoir une attitude particulière par rapport au travail de terrain. Alors, suite de ça, évidemment, il y a une intervention physique qui va se faire auprès des populations, par soit des prises de sang, soit des frottis buccaux maintenant pour prélever de l'ADN, soit éventuellement de prendre des cheveux ou autres, ou même des frottis de peau, ou de la salive, enfin toutes des interventions qui vont permettre de stocker un matériel biologique, et ensuite ce matériel biologique va être exporté ailleurs et va être étudié dans des laboratoires pour être analysé et pour pouvoir étudier, répondre aux questions posées. Donc là, nous sommes confrontés à des individus vivants, à des populations vivantes qui vont avoir en quelque sorte un matériel qui va être, peut-être pas en exil, c'est un terme qui a été utilisé pendant ce colloque, mais qui va être exporté à l'étranger, qui va être stocké dans des frigos. Alors, évidemment, il y a toutes sortes de questions éthiques qui se posent là. Et d'ailleurs, récemment, il y a eu ces expéditions ont occasionnellement été assimilées à du pillage avec des demandes de restitution de matériel biologique. Donc, on est vraiment au cœur du problème, d'un problème éthique fondamental. Donc, à ce moment-là, évidemment, le chercheur, il se pose la question, est-ce qu'il ne faut pas étudier l'humain ? Tout simplement par mauvaise conscience. Évidemment, sa position, la position du chercheur peut être très inconfortable. Elle est très inconfortable parce qu'il possède aussi un héritage assez lourd, un passé colonial qui a été profondément raciste. Le colonialisme européen a exploité les peuples, non seulement pour des raisons économiques, comme vous le savez, mais aussi au nom de la science, et ceci s'est traduit par le passé, par des traites d'individus rapportées comme des curiosités exotiques des quatre coins du monde. On a déjà parlé cet après-midi de Sergi Bartman, la Vénus Hottentote, j'en reparlerai pas. À plus large échelle, il y a eu également, surtout dans la deuxième moitié du 19e siècle, des zoos humains qui ont été mis en place par un Allemand au départ, Karl Hagenberg, en Allemagne, et puis qui a conduit à des exhibitions ethnographiques, c'était les fameux villages nègres ou villages noirs, comme en 1889 sur le Champ de Mars, ici en 1904 à Nantes, avec des spécimens vivants qui étaient exhibés dans ces expositions, dans des expositions universelles, et qui était destiné en quelque sorte à exhiber le sauvage au peuple civilisé, à la fois pour montrer des particularités sur le plan culturel, mais aussi pour montrer des particularités sur le plan biologique, puisque des individus, et en l'occurrence Sergi Bartman, qui a été disséqué par Georges Cuvier, ont fait l'objet d'observations, de véritables observations anthropologiques. Le colonialisme, il a aussi évidemment conduit à exporter des restes humains. On en a aussi déjà parlé, comme trophées, objets de collection, les exemples des têtes maoris qui ont fait l'objet de restitutions. Il y a des momies, il y a toutes sortes de collections anthropologiques que l'on retrouve toujours aujourd'hui dans des institutions ou dans des musées du monde entier et dont le sort est de plus en plus discuté à l'heure actuelle. L'anthropologie physique est née en quelque sorte du colonialisme et elle est restée pendant longtemps profondément coloniale dans ses pratiques, dans ses travaux, dans ses écrits. Elle a utilisé des restes humains, notamment des squelettes, des crânes, venant de populations lointaines, pour des études anthropologiques qui ont servi à une certaine époque à démontrer, entre guillemets, l'infériorité de certaines races. C'est par exemple les collections de crânes, plus d'un millier de crânes qui avaient été collectionnés par Samuel George Morton à Philadelphie au début du XIXe siècle et qui lui avait fait des mesures de capacité endocrânienne avec de la limaille de plomb pour soutenir des idées polygénistes, c'est-à-dire des idées défendant le fait qu'il y aurait plusieurs espèces humaines et conduisant à une hiérarchisation de ces groupes humains avec une position hiérarchique supérieure ou inférieure qui était décidée en fonction de la taille du cerveau mesurée par cette limaille de fer. Alors évidemment, il y a eu toutes sortes de falsifications de résultats, il y a eu toutes sortes de paramètres qui n'ont pas été pris en compte, comme les tailles corporelles des populations, etc. Et il y a eu des dérapages évidents avec des adeptes de Morton, par exemple, Knott et Gliddon, qui dans leur travail, hommage au travail de Morton, Types of Mankind, publié en 1854, ont poussé encore plus en avant ces thèses avec des tristes parallèles, comme vous pouvez le voir sur cette image. Tout ça, évidemment, c'est du passé, dit-on, mais c'est un passé qui a quand même profondément gravé les mentalités. Par exemple, dans l'histoire récente, de la génétique des populations, on constate parfois certains dérapages dans l'interprétation des données, beaucoup dans le monde anglo-saxon, des dérapages dans, par exemple, dans la présentation des données, des résultats des analyses génétiques des populations. Par exemple, des chercheurs anglo-saxons adoptent souvent la démarche d'opposer les Africains aux non-Africains, même si cela ne se justifie absolument pas du point de vue scientifique, comme dans ce graphique qui a été publié en 2000, où vous me croirez si vous voulez, mais cette barre horizontale qui sépare Africains d'un côté et non-Africains de l'autre n'a aucune raison d'être sur le plan scientifique. Aussi, j'ai donné un autre exemple ici, c'est un article beaucoup, beaucoup plus récent, publié en 2010, qui a évidemment, qui présente des résultats qui sont tout à fait intéressants, mais on note, par exemple, j'ai noté une phrase qui dit que « studies based on mitochondrial and small sets of nuclear markers have shown that these hunter-gatherers, known as Khoisan, San or Bushmen, are genetically divergent for other humans. » Donc c'est vraiment l'idée que des Africains ou certains Africains devraient forcément se distinguer de toutes les autres populations prises en bloc. D'une nature, pourquoi ? Pour une nature plus primitive, voire originelle, ce qui est particulièrement suggéré par la récupération, la divulgation de résultats scientifiques dans des journaux ou livres à grand public, ici avec des références bibliques, et je me passerai de mentionner l'auteur de ce livre. Mais c'est une manière de présenter les résultats et de tirer les conclusions dans ces exemples qui révèle un état d'esprit qui chercherait consciemment ou inconsciemment, et je pense que bien des fois c'est une attitude inconsciente, mais simplement héritée de ce poids de colonialisme, qui cherche à accentuer les différences entre les Africains et d'autres populations. Alors évidemment, ces travaux, la plupart du temps, ne tiennent pas compte de l'ensemble des facteurs qui peut justifier que dans certains cas, effectivement, on trouve des différences. Mais ces différences, elles s'expliquent d'un point de vue méthodologique par exemple, des considérations démographiques, des petites populations divergent beaucoup plus vite que les autres, ou encore des populations très isolées, comme des chasseurs-cueilleurs, divergent beaucoup plus rapidement que les autres et peuvent, dans certains cas, se retrouver génétiquement isolés par rapport à d'autres populations voisines. Donc tout cela s'explique, mais la présentation est souvent accentuée vers une différenciation entre des Africains et des non-Africains. Heureusement, on n'est pas tous comme ça, mais on n'est pas à l'abri de ce genre de dérapage. D'ailleurs, depuis quelques décennies, certains peuples déclarent qu'ils subissent des torts moraux dans le cadre d'expéditions scientifiques destinées à étudier le patrimoine génétique pour la recherche en biologie ou en médecine. C'est l'affaire récente des échantillons de sang Yanomami qui ont fait l'objet d'une restitution par des laboratoires américains qu'ils avaient stockés depuis les années 60 dans des frigos suite à une étude épidémiologique concernant la rougeole. Ces populations ont réclamé les échantillons de sang, ont su que ces échantillons de sang étaient stockés depuis des dizaines d'années et les ont réclamés tout simplement parce que dans leur tradition, ils devaient récupérer tout matériel biologique lorsque le défunt qu'il devait restituer au défunt au moment de sa mort, sinon le défunt ne pouvait pas s'en aller. Donc dernièrement aussi, il y a eu, toujours dans le cas d'ethnie amérindienne, il y a eu des représentants d'une ethnie, les Havasupai, qui vivent dans le Grand Canyon, qui sont montés au créneau parce que cette population avait consenti à donner de l'ADN à des chercheurs dans l'espoir d'étudier d'élucider les causes du diabète qui frappait fortement une grande partie des individus. Or, il s'est avéré que cet ADN était utilisé à d'autres fins, pour d'autres types d'études, et ces individus n'étaient pas d'accord. Parmi ces études, il y avait notamment la reconstitution de leur histoire, qui contredisait la reconstitution traditionnelle de leur histoire, telle qu'eux-mêmes la voyaient. Et ils ont eu gain de cause, puisqu'ils ont eu $700,000 de dédommagement, restitution des ADN et toutes sortes d'assistances par le gouvernement américain. Donc le chercheur, l'anthropologue, aujourd'hui sur le terrain, il se voit contraint de se questionner sur son attitude, de par d'une part son passé colonial et par d'autre part par des aspects éthiques qui sont soulevés par tous les acteurs et notamment par les populations qui sont étudiées. Alors le problème, c'est qu'il est aussi confronté à un décalage culturel énorme ou un décalage aussi dans l'éducation qui fait qu'il est très limité dans l'explication qu'il peut fournir aux populations locales au moment d'aller sur le terrain et d'entreprendre une démarche scientifique. Donc, comment faire ? Il est possible de poursuivre la science en toute conscience morale du point de vue du chercheur et en toute confiance aussi du point de vue des populations étudiées. C'est possible, mais il faut se donner tout simplement les moyens de le faire. On peut imaginer des attitudes extrêmes. Évidemment, d'un côté, les expéditions peuvent s'accompagner d'attitudes vraiment typiquement colonialistes qui ne tiendraient pas compte de ces considérations d'ordre éthique. Et puis, de l'autre côté, il y aurait un sentiment de culpabilité tellement excessif qu'il nous pousserait à l'abandon des recherches biologiques sur les populations et sur le matériel biologique humain. En fait, la réalité d'aujourd'hui, Elle se situe quelque part entre ces deux extrêmes. Elle se rapproche plutôt d'un équilibre. Le chercheur lui-même a la plupart du temps une attitude raisonnable, mais évidemment, pour que l'anthropologie d'aujourd'hui elle soit acceptée en toute confiance par tous les acteurs, c'est-à-dire les chercheurs, les populations étudiées et aussi la société, il faut des garanties qui tiennent compte des problèmes potentiels, et ces problèmes potentiels sont d'envergure parce qu'on a des moyens biotechnologiques de plus en plus sophistiqués qui nous permettent d'exploiter très finement et de multiplier très rapidement le matériel biologique, et on a aussi des moyens informatiques très sophistiqués, très puissants, qui nous permettent de diffuser à large échelle les données et l'information qui s'y rapportent. Alors, heureusement, donc, ces garanties, elles sont fournies quand même, elles commencent à être fournies par des commissions d'éthique qui sont mises en place pour protéger les données, pour respecter les individus et les populations. Il y a des législations qui sont parfois sévères en matière d'utilisation des ressources biologiques, mais le gros problème, c'est que les règles diffèrent d'un pays à l'autre et que travailler en collaboration sur de nombreux pays, ce qui est presque toujours le cas, devient un problème extrêmement compliqué. Donc une approche prometteuse est d'essayer de déterminer a priori une manière consensuelle de travailler qui respecte au mieux les règles de tous. Et puis je suis très contente qu'Éric ait donné ses pistes de réflexion aussi sur les codes à adopter. Là encore, il y aurait des choses à faire, il y a des choses à faire. Et je donnerai un seul exemple qui concerne mes propres recherches et pour lesquelles nous avons été financés par l'Union européenne. C'est un réseau européen de recherche en génétique des populations. Ici, il s'agit de recherche sur les populations européennes, mais qui est destinée à s'étendre à des populations à l'échelle mondiale, y compris africaine. Eh bien, il y a un groupe de travail qui travaille spécifiquement sur ces questions éthiques en génétique des populations qui s'est mis en place. Et d'ailleurs, nous n'aurions pas été financés si nous n'avions pas créer ce groupe de travail sur les questions éthiques. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a quand même en ce moment une attitude de plus en plus raisonnable par rapport à toutes ces questions. Alors les questions, hein, c'est un résumé de protocoles, abordent toutes sortes de questions. Donc il faut évidemment spécifier pour tout travail de terrain les objectifs de l'étude, les conditions d'échantillonnage qui posent des questions spécifiques, par exemple. Les populations doivent savoir quels sont les risques ou les bénéfices pour les sujets qui participent à l'étude. Est-ce que les échantillons biologiques sont rendus anonymes ou pas ? Est-ce qu'il est possible de retrouver le lien d'un échantillon biologique avec l'identité de l'individu ? Qui est responsable de ce lien ? Comment ? Où est stockée cette information ? Si les échantillons sont à prélever des novos sur le terrain, il faut évidemment respecter le principe du volontariat et du consentement éclairé du sujet. Il faut obtenir aussi l'approbation, ben on l'a dit, de la population autochtone, du chef du village, mais aussi d'un point de vue plus formel, d'une commission d'éthique. Alors, le consentement, évidemment, il peut être oral ou écrit, mais dans tous les cas, il faut qu'il soit documenté par le chercheur. L'information doit spécifier vraiment la nature et les buts de l'étude, le type d'échantillons biologiques à prendre, quel type de tests vont se faire. Si ces échantillons, et ça c'est quelque chose de très important et de très délicat, si ces échantillons seront disponibles pour des études futures encore indéterminées, mais approuvées éthiquement. Et ça rejoint justement le problème des Havasupai qu'on a invoqué tout à l'heure. Mais évidemment, si les échantillons en même temps sont rendus anonymes, comment est-ce qu'on peut retourner à la population pour redemander un consentement aux individus pour une nouvelle étude. Donc tout ça, ce sont des problèmes qui doivent être abordés et qui le sont parce que donc ces personnes, sur le plan européen, travaillent d'arrache-pied, contactent les différents gouvernements européens pour savoir qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui est requis par ces commissions d'éthique. Il y a d'autres points comme la diffusion des données, l'analyse des données, le stockage des échantillons, le partage des échantillons, etc. Donc là, on en est par exemple à élaborer une sorte de checklist. C'est un document de travail collectif. C'est un checklist pour la recherche en génétique des populations où toutes les questions sont abordées. Consentement, confidentialité, est-ce que les données sont anonymes, quelle est la gouvernance, qui décide, quel est le décideur soit l'individu, soit l'institution qui va décider du sort de ces échantillons. J'ajouterai un point très important parce que là, c'est un point de vue du chercheur, mais évidemment, d'un point de vue des populations locales, je pense qu'il y a un programme d'éducation peut-être à élaborer de manière à ce que les populations locales soient courantes, qu'on puisse communiquer, ne pas abandonner toutes les recherches sur ce matériel biologique, mais au contraire, pouvoir communiquer vraiment avec les populations locales, de qu'est-ce qu'on fait avec l'ADN, à quoi ça sert, et quel est le retour aussi que ces populations peuvent avoir, peuvent attendre. Donc, voilà, il y a aussi un autre petit Petit point que j'aimerais aborder, c'est que beaucoup de chercheurs maintenant veulent réutiliser des échantillons de manière à ne pas avoir une attitude invasive sur le terrain parce qu'il faut prélever du matériel biologique, vont essayer de réutiliser des échantillons qui sont déjà stockés depuis plusieurs dizaines d'années et à partir desquels il est possible de réamplifier de l'ADN et de refaire des analyses. Ça pose le problème que je l'ai dit tout à l'heure de la réutilisation du matériel. Donc, la situation est compliquée, mais elle est prometteuse parce qu'il y a de plus en plus de groupes qui se penchent sur ces questions-là. Et je crois que, en attendant qu'on élabore des protocoles qui soient acceptés aussi par les gouvernements, eh bien, il faut avoir des attitudes raisonnables et au moins savoir ce qu'il ne faut pas faire et respecter ce qu'il ne faut pas faire sur le terrain. Donc, c'est ainsi qu'on va arriver à préserver cette mémoire du passé, qu'elle soit africaine ou de n'importe quelle autre origine. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez quelques questions, évidemment, je suis à votre disposition.